deux semaines qu'on a publié le dernier épisode du podcast, et c'est donc avec une rigoureuse précision helvétique qu'on vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et bien évidemment, et comme à notre habitude, un épisode sur deux, je retrouve Hermano et on va discuter ensemble d'une thématique. Hermano, salut.
Salut Greg, salut à tous, comment ça va?
Bah écoute, moi ça va très très bien, et toi, comment ça va?
Bah écoute, avec les températures qui baissent, mais malgré tout qui restent relativement agréables, ça va mieux. Bon, il faut dire que je rentre de vacances aussi, donc j'ai pu profiter d'un peu de soleil, près de l'océan, du côté de la côte est américaine, c'était bien sympa. Mais maintenant il faut se remettre à nos fraîcheurs européennes.
Ah bah c'est sûr, hein, là on est sur la période de l'année où il va falloir s'habituer à remettre une petite couche supplémentaire quand on va s'entraîner. Et puis, malgré tout, hein, on profite encore de belles soirées. Moi, ce soir, juste avant d'enregistrer ce podcast, je profitais encore d'un petit entraînement de course à pied. C'était absolument pas désagréable. En tout cas, ça permet de courir dans des meilleures conditions que dans la canicule estivale.
Bon, l'avantage, c'est que quand on court, qu'il fasse chaud ou froid ou un temps agréable, on peut toujours courir en extérieur. C'est rare quand même qu'on se cantonne à aller courir en intérieur. Par contre, au niveau du vélo, c'est un peu plus embêtant.
Exactement. On va parler de cyclisme, on va parler de vélo. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour parler d'entraînement vélo en intérieur, même si c'est quelque chose qu'on a noté, hein, pour un prochain épisode, de parler de home trainer et puis de l'avantage de s'entraîner, de continuer l'entraînement en hiver dans les régions où on peut vraiment plus rouler dehors. C'est entre autres un peu le cas chez moi, de s'entraîner sur le home trainer. Mais avant de mettre un vélo sur un home trainer, il faut avoir un vélo, Hermano.
À moins qu'on invente un triathlon moderne sans vélo, mais pour le triathlon classique, je crois que l'on a besoin d'un vélo. Peut-être même de plusieurs.
Alors, c'est toute la question qu'on va aborder dans l'épisode de ce soir. C'est de savoir, quand on est débutant à vélo, parce que c'est une question que des auditeurs nous ont posée et qui est revenue quelques fois, avant de se mettre au triathlon ou de se mettre sur des courses de cyclisme sur route, parce qu'il y a aussi des auditeurs qui font du cyclisme sur route sans vouloir nager ou courir, donc qui vont aussi devoir choisir un vélo pour aller faire de la compétition, et puis c'est le sujet qu'on va aborder dans cet épisode.
Bon ben, j'ai hâte, et surtout que ça va bien m'aider, parce que comme tu le sais, ça fait quelques temps que je suis pas remonté sur le vélo, que je n'ai pas repris le triathlon, et il va peut-être falloir que je m'en rachète un, donc ça va beaucoup m'aider, je pense.
Eh ben, écoute, la première question, c'est de savoir à quel moment on décide d'investir dans un vélo de route, parce que c'est vrai que maintenant, au niveau du vélo, il y a un choix qui est vraiment très important. Alors, si on veut faire du sport plaisir, on peut partir sur du VTT, on peut partir sur du vélo de route, on peut partir sur du gravel, qui est un petit peu à mi-chemin entre les deux, et c'est très à la mode en ce moment, c'est-à-dire de pouvoir faire de la route, ou en tout cas faire du chemin, et puis tout d'un coup de s'écarter un petit peu, puis de rouler dans des passages un petit peu plus nature, hein, entre guillemets. Donc nous, on va vraiment se concentrer dans cet épisode sur le choix d'un vélo de route, mais avant de choisir un vélo de route, on peut déjà se poser la question, est-ce que je prendrai pas plus de plaisir sur un VTT ou sur un vélo de gravel? Bien évidemment, en 35 minutes, comme on a l'habitude d'enregistrer nos épisodes, on va pas pouvoir parler de toutes ces catégories de cyclisme qui sont pour autant très intéressantes, hein, mais on va se concentrer sur le vélo de route avec en fond quand même l'idée de parler aux triathlètes ou aux futurs triathlètes, en tout cas qui nous ont posé la question. Mais je pense qu'il y a des choses à prendre pour toute personne qui s'intéresse au cyclisme. Alors avant de choisir son vélo, il faut vraiment se poser la question de ce pourquoi on va l'utiliser. Et pour moi, en fait, ça a été la question à la base. Alors je pense que de toute manière, le premier vélo qu'on va s'acheter pour faire de la route ou du triathlon, ce sera un cadre classique. Alors quand je dis cadre classique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera un vélo de route avec le guidon qu'on connaît. C'est-à-dire c'est basiquement le vélo qui est utilisé par tous les coureurs du Tour de France en dehors des étapes de contre-la-montre, avec le guidon recourbé, sans prolongateur, et puis qui correspond parfaitement à tout type d'épreuve qu'on peut faire. Parce que il faut savoir que en fonction de l'épreuve qu'on souhaite réaliser, que ce soit des épreuves des cyclosportives, que ce soit des triathlons, que ce soit des compétitions un petit peu plus relevées, on pense par exemple à la cyclosportive de l'étape du Tour, etc. Ben il y a un règlement technique par rapport au matériel qu'on peut utiliser. C'est pareil en triathlon, et puis ne pas se retrouver limité dans les épreuves qu'on va pouvoir réaliser avec le vélo, parce que tout d'un coup on a mal choisi et puis on a pris quelque chose qui ne correspond pas au règlement en question.
Tu en parlant de règlement, tu veux que je te raconte une anecdote ?
Dis-moi ton anecdote.
Tout début où j'étais au Luxembourg, j'ai pris mon petit vélo, j'ai tout mis dans ma housse de transport, je suis arrivé au triathlon de Paris, qui est à courte distance, avec drafting autorisé, et là, les mecs de l'organisation, quand je suis arrivé devant le parc, m'ont dit « ta-ta-ta-ta-ta, il faut avoir au moins 12 bâtons, si ce n'est 16, donc si t'as pas d'autres roues, tu prends pas le départ
!» Et oui, bah c'est justement pour éviter ce problème que tu as rencontré bien malgré toi qu'on va aborder les différents règlements qui régissent les courses dont on va parler. Donc il y a un règlement qui chapeaute un petit peu le tout, c'est le règlement UCI, le règlement technique UCI, Union Cycliste Internationale. Donc c'est vraiment le règlement qui régit toutes les courses de vélo sur Terre, en gros. En même temps, les courses de triathlon, que ce soit les courses de triathlon régies par l'ITU, donc l'International Triathlon Union, ou alors la WTC, la World Triathlon Corporation, parce que évidemment, une seule, ça aurait été trop facile, donc il y en a deux. Mais toutes les deux, acceptent le règlement UCI comme étant valable sur leurs épreuves. Ça veut dire que si on choisit un vélo conforme UCI pour les épreuves sur route, on pourra l'utiliser sur toutes les épreuves de cyclisme et sur toutes les épreuves de triathlon. Donc c'est pour ça que c'est le choix un petit peu par défaut que je recommande à tout débutant en triathlon, c'est-à-dire qu'il prenne un cadre de route qui s'assure qu'il a des roues conformes UCI, c'est-à-dire comme tu l'as très bien expliqué avant, avec maintenant je crois que le règlement stipule qu'il doit y avoir au moins 12 rayons, mais à confirmer, s'assurer qu'on a des roues qui sont conformes au règlement UCI et puis un vélo UCI, et comme ça on n'a pas ce problème que tu as rencontré au triathlon de Paris avec un commissaire de course qui à l'entrée du parc vélo ou du départ de la course nous dit non, votre vélo il est pas conforme, vous pouvez pas prendre le départ. Ça évite énormément de problèmes et de frustrations. Et c'est vraiment le vélo que je recommande à tous les débutants, soit en cyclotourisme, soit en triathlon, sachant que on trouve tout type de cadre dans cette catégorie de vélo de route générique. Par exemple, dans les cadres qu'on a l'habitude de voir sur le Tour de France, sur des étapes de plat, on voit des cadres qui sont beaucoup plus profilés, qui sont beaucoup plus typés pour déjà de l'aérodynamique, donc qui conviendront très bien à des triathlètes qui veulent se lancer sur des courses sans drafting, même si c'est pas un vélo de contre-la-montre en lui-même, ça va déjà avoir un côté un petit peu aérodynamique et qui va nous permettre déjà d'être performant sur des courses sans drafting. Donc le drafting, pour rappel, c'est le droit de rouler dans la roue du cycliste qui nous précède, c'est-à-dire de rouler en paquet ou en peloton. Ça diminue donc l'effort qu'on doit fournir pour tous les cyclistes qui sont derrière le premier, puisqu'il y a moins de résistance à l'air, et donc c'est plus facile de pédaler et d'avancer vite. À contrario des contre-la-montre UCI ou alors des courses de triathlon sans drafting, c'est-à-dire où on doit se situer au moins à 12 mètres du cycliste qui nous précède, et là, c'est chacun pour soi, chacun fait le même effort et on peut pas s'abriter derrière un autre cycliste pour économiser de l'énergie.
Est-ce qu'on a le droit de s'abriter derrière la moto de l'arbitre ?
Alors, tu peux essayer, mais l'arbitre, il risque très rapidement de se retourner et de te montrer un beau carton bleu ou un carton rouge. Je déconseille à n'importe quel triathlète, et même sur les courses avec drafting, ne draftez que des coureurs qui sont dans votre catégorie et dans le même tour que vous, et pas les motos ou les voitures de l'organisation. On voit souvent sur le Tour de France des coureurs qui sont un petit peu au bout du rouleau, qui essayent de remonter depuis l'arrière du peloton, qui se mettent dans la voiture du directeur sportif, mais si ça se voit et que c'est trop flagrant, le coureur peut se prendre une pénalité.
Et je crois même qu'en triathlon, maintenant en France, quand le drafting est autorisé, t'as le droit de drafter que avec tes adversaires, enfin les autres participants de la course, mais t'as pas le droit de drafter derrière une voiture ou une moto. Même en course à pied, les femmes n'avaient pas le droit de s'abriter derrière les hommes. Je sais pas si ça a changé.
Alors en course à pied, c'est beaucoup plus difficile d'appliquer ça. Je suis pas sûr qu'il y ait un règlement stricto sensu, mais par contre sur le cyclisme, c'est sûr que si moi je suis en groupe d'âge et qu'il y a du drafting et que tout d'un coup il y a la première pro féminine qui me prend un tour et qui passe à côté, je me dis tiens, elle a une allure que je pourrais tenir si je suis dans sa roue. Même si le drafting est autorisé, j'ai pas le droit de prendre sa roue parce qu'elle est pas dans la même catégorie que moi. Elle est en élite femme, moi je suis en groupe d'âge homme, j'ai pas le droit de prendre sa roue. Après c'est beaucoup plus difficile de savoir si un élite homme qui a pris un tour est dans la même catégorie que moi, donc l'arbitre peut laisser un petit peu de marge de manœuvre, mais si je suis manifestement dans les roues d'une cycliste ou d'un cycliste qui n'est pas dans ma catégorie, je peux être sanctionné.
D'où la couleur des dossards.
D'où la couleur des dossards.
Pendant qu'on parlait, j'étais en train de vérifier, en France, la réglementation nationale dit que c'est 16 rayons pour une course avec drafting.
D'accord. Donc 16 rayons. Donc bon, en général, quand on achète un vélo de stock, c'est-à-dire qu'on le personnalise pas ou on le fait pas personnaliser par son vendeur de vélo et qu'on l'achète issu du fabricant tout monté, il vient avec des roues qui sont normalement légales UCI. Donc là, il n'y a pas de problème. Après, il y a aussi l'UCI qui publie une liste particulière de roues qui ne correspondent pas au règlement de base, mais qui sont quand même autorisées en compétition. Donc voilà, pour les utilisateurs un petit peu plus avertis qui veulent choisir du matériel un peu plus spécifique, penchez-vous quand même sur les règlements, ça vaut la peine avant de le faire. Personnellement, j'ai récemment changé de vélo de triathlon. Enfin, j'attends, au moment où on enregistre ce podcast, j'attends la livraison du nouveau vélo. Et ce vélo est particulier. Et vraiment, je me suis assuré qu'il était conforme aux règles ITU et WTC parce que je sais qu'il n'est pas légal au niveau UCI, mais ça, c'est un choix personnel. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait cette vérification en cas pratique au moment de choisir le vélo de triathlon qui sera le mien la saison prochaine.
Oh là là, hâte de voir ça. Et juste pour finir sur les roues, c'est vrai que comme tu le précisais, il faut vérifier parce qu'il y a certaines roues qui sont homologuées parce que la règle des 16 rayons n'est pas la même pour les bâtons. C'est-à-dire quand on a des roues qui ne sont pas composées de rayons mais de bâtons droits et épais, c'est moins nombreux. Mais à vérifier, il faudrait ressortir le texte pour nos auditeurs.
Voilà, donc si on achète des roues spéciales, quand même vérifier la compatibilité sur les courses avec drafting, les courses UCI et les courses sans drafting, puisque c'est trois règlements distincts. Donc voilà. Donc au niveau du choix des roues et du vélo, je l'ai dit, si c'est son premier vélo, qu'on veut se lancer dans le triathlon, qu'on veut un petit peu découvrir les distances, est-ce qu'on est plus à l'aise sur des courses avec drafting, sans drafting, est-ce qu'on veut faire peut-être une fois une course un petit peu plus longue, comme un Half Ironman, eh bien ça vaut la peine d'investir d'abord dans un vélo de route. Je recommande quand même de mettre un certain prix, pas forcément pour dépenser de l'argent absolument, mais ne pas acheter un vélo de premier prix si vraiment on sent que c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement, parce que c'est quand même un outil de travail important le vélo, hein, pour un triathlète et encore plus pour un cycliste. Mais c'est quand même la discipline dans laquelle on va passer le plus de temps, qu'on va faire le plus de volume. Et comme avoir des chaussures confortables pour faire de la course à pied, on va pas prendre des chaussures de premier prix pour aller faire un marathon. Eh bien, c'est pareil avec un vélo. On va prendre quand même un vélo qui offre certaines performances, certaines garanties de sécurité aussi. Maintenant, on trouve des vélos avec des freins à disque qui offrent une sécurité au freinage qui est quand même plus grande. Alors, certes, ça a quelques inconvénients comme un ajout de poids sur le vélo. Mais par contre, au niveau de la gestion du freinage et puis de la régularité du freinage, par exemple, en conditions humides, le frein à disque a quand même apporté beaucoup. Et je pense que pour un cycliste débutant, ça vaut quand même largement la peine maintenant d'investir dans un vélo qui a cette technique de frein là. C'est quand même beaucoup plus rassurant que freiner avec des patins sur du carbone. Que voilà, au niveau de l'aspect général, le choix du vélo et surtout le choix de la taille du cadre, et encore c'est quelque chose que j'ai rencontré encore récemment en choisissant mon propre vélo, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Parce que le constructeur du vélo va nous donner des cotes, il va nous donner la sortie de la tige de selle maximale, il va nous donner la hauteur maximale de la sortie du guidon, la longueur du cadre, et puis différentes mesures. Mais tout ça, ça va être très très abstrait pour la personne qui veut acheter son premier vélo. Donc ce que je recommande absolument, et c'est la même chose que pour les combinaisons de natation ou pour les chaussures de course à pied, c'est aller chez un vendeur local de vélo, chez un vélociste à côté de chez vous, et puis demander les vélos qu'il a à l'essai. Allez faire une sortie d'essai sur un cadre qui semble correspondre à votre besoin, à votre taille, et puis roulez quelques kilomètres avec pour voir si vous vous sentez bien sur le vélo. Alors c'est sûr qu'une sortie de 10 km sur un vélo d'essai, ce sera pas la même chose qu'une sortie de 100 km après qu'on va faire à l'entraînement, mais ça donne déjà une idée de voir si le cadre est vraiment trop grand, vraiment trop petit. Et puis le vélociste en professionnel qu'il est, ou en tout cas qu'il devrait être, eh bien pourra vous dire, dès qu'il vous voit sur le vélo et qu'il vous voit pédaler au loin, eh bien dire attention, votre cadre il est trop long, vous allez trop allongé pour être sur le guidon, ou alors il est trop petit, vous avez les genoux qui tapent déjà quasiment les coudes. Et puis bah voilà, c'est des choses, quand on est débutant on s'en rend pas forcément compte, mais quand on monte sur un vélo puis qu'on commence à pédaler, c'est des choses qui deviennent flagrantes.
Ouais, en général tu disais dans une sortie de 10 km ce sera pas celle de 100 km, mais quand même sur 10 km on se rend très vite rendre compte si le vélo n'est pas adapté.
Ah, s'il y a des gros problèmes de gestion de taille du vélo, bah, c'est sûr que ce sera clairement manifeste sur 300 mètres. Mais par contre, c'est vrai que le confort sur le long terme, après, bah, voilà, c'est des petits réglages. Mais si on a déjà choisi la bonne taille de vélo, on pourra toujours mettre une potence plus longue, plus courte de 1-2 cm pour peaufiner le positionnement sur le vélo. Si la taille du cadre ne correspond pas déjà à l'origine, bah, ce sera très très compliqué de rattraper le coup. C'est pour ça que je déconseille l'achat d'un vélo, en tout cas d'un premier vélo ou alors d'une marque dont on ne connaît pas bien les cotes et puis comment est la géométrie du vélo, de faire son achat au petit bonheur la chance sur internet et puis de recevoir son vélo. C'est vraiment une loterie que personnellement je ne tenterai pas.
Donc tu disais pour les débutants de prendre un vélo de course plutôt classique, un vélo de route. Je crois qu'il y a quand même une chose qui est primordiale, c'est que il y a plusieurs géométries de cadre. En gros, à taille de cadre identique, un cadre qui aura une allonge plus longue et une longueur de tige de selle plus longue sera plus confortable que quelque chose qui est plus compact où là on sera plus sur la performance.
Alors ça dépend, le confort est tout relatif. Après ça dépend déjà de chaque individu, de chaque morphologie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des longs bras, donc qui nécessitent d'avoir un cadre un petit peu plus long ou d'avoir un guidon un petit peu plus loin. Il y a des personnes qui ont des longues jambes mais qui ont un haut du corps peut-être un petit peu plus ramassé et pour lequel il faudrait une autre géométrie avec une sortie de selle plus grande mais par contre un guidon plus rapproché. Et ça, c'est des choses aussi qu'on va voir lors de notre test chez le vendeur de vélo. Alors demandez à tester plusieurs modèles et vous verrez qu'il y a des différences assez flagrantes, même si on prend un taille 54 chez un fabricant puis chez un autre, puis dans un type de vélo plus profilé pour aller vite au plat ou alors plus pour la grimpe en montagne, il va y avoir des différences manifestes de positionnement et c'est là qu'on va se rendre compte, tiens je suis un peu plus à l'aise de pédaler sur celui-là, ou tiens celui-là je le mets beaucoup au plat mais alors en montée ça allait pas du tout. Voilà, ce genre de petits détails qu'on peut voir en essayant un vélo. Après, c'est vrai, on l'a dit et je le répète, si on part pour faire des cyclos sportifs comme par exemple l'étape du Tour où on sait qu'il y aura 3-4 cols à faire qui sont des cols importants parce que le Tour de France en général on voit des cols qui sont pas des petits machins, donc là c'est vrai qu'il faut un vélo sur lequel on est confortable et qui soit léger et qui soit suffisamment dynamique pour continuer à être agréable même quand on devient fatigué. Et par contre, si on prend un cadre très très costaud, très très rigide et qui va envoyer du lourd sur le plat, par exemple si on veut faire du triathlon sans trop de dénivelé et puis envoyer fort sur le plat avec des tubes très aérodynamiques mais très rigides, et ben c'est deux choses complètement différentes et là prendre un vélo passe-partout nous permettra déjà de trouver un petit peu les courses ou les types de parcours sur lesquels on est le plus à l'aise et puis ensuite dans l'évolution normale, et bien ce sera de choisir un vélo qui sera plus typé là-dedans. Donc si on sait pertinemment que nous, ce qu'on aime, c'est la montagne, c'est d'aller faire le col de l'Isoard, le col de la Madeleine, le col du Galibier dans la même journée, il faudra pas choisir un vélo de sprinter super rigide, mais un truc plus dynamique. Et puis, inversement, si je veux faire du triathlon au plat, je vais choisir un vélo qui a déjà un cadre, pas avec des tubes ronds, mais avec des tubes en forme de goutte d'eau pour avoir cette aide aérodynamique. Et puis, on va parler des roues tout à l'heure. Ça aussi, on va les choisir en fonction du type de parcours qu'on va effectuer.
Alors, tu parlais de vélo dynamique, un peu moins dynamique et autres. Ça m'amène à une question. Comment est-ce qu'on sait si un vélo est dynamique, renvoie de l'énergie ou pas? Et ensuite, on pourra peut-être parler aussi de du matériau utilisé. Plutôt alu, plutôt carbone. Bon, ici, on n'en parle pas. Je crois que ça n'existe plus trop.
Les vélos en acier, on n'en trouve plus tellement. L'aluminium, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Maintenant, je conseille vraiment, vraiment de partir tout de suite sur un vélo avec un cadre en carbone. Parce que en rapport poids, rigidité et dynamique, c'est quand même le mieux qu'on trouve sur le marché. D'ailleurs, je pense que ça représente quand même la vaste majorité des vélos qu'on trouve sur le marché. L'aluminium, il est vraiment très très rigide et on subit vraiment l'état de la route sur un vélo en alu. Après, il y a encore des vélos en titane ou dans d'autres matériaux un petit peu spécifiques. Maintenant, je sais plus si on voit encore beaucoup de vélos en magnésium, mais en tout cas, on en trouvait à une époque. Mais ça, c'est des choses un petit peu plus typées qu'on va pas forcément recommander. Mais un cadre carbone de milieu de gamme, je pense que fera largement l'affaire pour un débutant. Et puis, c'est un vélo qui va pouvoir continuer à vivre avec lui l'évolution de son développement cycliste. Donc Le carbone avec ensuite, je pense que ça vaut la peine quand même de se renseigner un petit peu sur les dynamiques d'un vélo. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions. Le fabricant déjà va dire ce vélo, il est fait pour ça. Si on prend par exemple Specialized, qui est un modèle qui s'appelle Roubaix, je pense qu'on imagine tout de suite, c'est très imagé, ce pourquoi il a été créé. Et donc du coup, voilà, si je sais que je veux faire ce genre de route ou que je veux un vélo qui permettre de pardonner un petit peu un mauvais revêtement ou alors qui absorbe bien les chocs, etc., ben on s'imagine que ce type de vélo-là va être plus adapté que le vélo de Mark Cavendish au moment où il sprint sur les Champs-Élysées, quoi. Parce que là, ça, ce sera une barre à mine qui sera impossible de plier d'un demi millimètre. Et voilà. Puis ensuite, le vendeur de vélo, lui, va pouvoir vous recommander un vélo en fonction de la dynamique que vous voulez. Et puis, bah, il y a plein de gens. Alors ça, je le fais pas sur nakan.ch, mais il y a plein de gens qui testent des vélos toute l'année sur le net. N'hésitez pas à aller lire leurs tests parce que eux, ils ont des centaines de cadres entre les mains chaque année. Et donc, ils vont pouvoir vous dire celui-là, il est plus réactif que le marché quand je mets une grosse accélération dans des petites côtes. Par contre, à la longue, dans un col, il est fatigant parce qu'il permet vraiment pas de baisse de régime, ou alors vraiment ce truc, il est super malléable, super sympa. Mais par contre, s'il y a un sprint avec les copains, eh ben, je vais avoir l'impression de pédaler un peu dans la semoule parce qu'il est un petit peu tout mou, quoi.
Alors moi, je pense que ce serait sympa si tu pouvais, dans les notes de l'émission, nous balancer quelques noms de sites intéressants ou de youtubeurs ou de blogueurs qui font ce genre de tests. Parce que moi, ce que je recherche, c'est pas des tests qui sont sponsorisés, c'est plutôt des tests à la Nakan, comme tu fais sur les montres et autres joujoux technologiques, où tu fais vraiment le test avec le cœur et tu reçois rien en contrepartie des fabricants ou des fournisseurs.
Alors écoute, je vais essayer de te trouver ça pour mettre ça dans les notes de cet épisode, avec grand plaisir.
Bon, le cadre, je crois qu'on a fait le tour là. Après, il y a un autre élément qui est quand même assez important sur le vélo. C'est le compteur. Non, c'est pas ça.
Ouais, alors le compteur, c'est important, mais ça, je pense que il y a tout ce qu'il faut sur nakan.ch. La deuxième partie, donc une fois qu'on a choisi son cadre, c'est de choisir ses roues. Et les roues, ça a une importance capitale. Parce que si le cadre, il a une dynamique, il a quelque chose d'important au niveau du confort, etc., les roues, c'est ce qu'on va mettre en mouvement sur le vélo. C'est là qu'on va transmettre l'énergie qu'on imprime pour avancer. Et donc, c'est un élément capital dans le choix. Et il y a plusieurs éléments au niveau des roues qui sont importants. Donc, on a parlé du nombre de rayons, ça c'est principalement au niveau du règlement. Et ça, c'est important de se conformer au règlement des courses auxquelles on va participer.
Et tu sais pourquoi le nombre de rayons est...
Tu dis les raisons pour lesquelles le règlement impose... Alors, c'est parce qu'il y a eu des chutes dans lesquelles plusieurs cyclistes ont été embarqués. Si tu as un bras qui passe entre les bâtons d'une roue à bâtons, comme on en avait vu quelques-unes à 3 ou 4 bâtons, eh ben, tu risques de te casser le bras ou voire te pire. Et donc, du coup, ça peut être dangereux. Et c'est pour ça qu'ils les ont interdits. Et plus il y a de rayons, plus il y a de chances que ton bras ne passe pas entre les rayons, mais qu'il soit renvoyé un petit peu à l'extérieur de la roue qui est en train de tourner. Et donc, du coup, le risque est moins grand. Donc voilà, c'est pour des raisons sécuritaires. Et c'est aussi pour ça, maintenant, on l'a dit, hein, le frein à disque est autorisé sur toutes les compétitions, triathlon, UCI, que ce soit avec ou sans drafting. Par contre, il y a eu des autorisations, puis ensuite des retours arrière où il n'y avait plus que les freins sur jantes qui étaient autorisés, puis enfin les disques, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des chutes où des gens se sont fait un petit peu découper les jambes par des disques. Maintenant, on a revu un petit peu la forme des disques, on a surtout revu la forme des arêtes, où maintenant les disques, il y a des règlements spéciaux par rapport aux disques qu'on doit utiliser. Alors rassurez-vous, lorsqu'un vélo vient avec des disques, maintenant ils sont tous conformes à ces nouvelles règles UCI avec des angles à 45 degrés et plus des angles droits, et puis ça fait plus meule à disque sur les vélos qui sont à côté de vous dans les pelotons, donc ils sont devenus nettement moins dangereux et maintenant ils sont généralisés, hein. Sur le Tour de France cette année, on le voyait très clairement, et j'étais sur les finales du World Series ITU à Lausanne cette année, là on voyait encore beaucoup de triathlètes avec du drafting autorisé avec des freins à disque, et il y a vraiment pas de problème majeur par rapport à ça. Donc voilà, le règlement évolue aussi. On parlait des roues. Maintenant, les roues, elles sont en mouvement. Justement, c'est là qu'on imprime la force, donc qu'on avance en fait, qu'on imprime le mouvement pour avancer sur le vélo. Et c'est ce qui nous connecte à la route, hein, entre guillemets, la roue. Donc, elle a plusieurs caractéristiques qui doivent être prises en compte. Il y a la rigidité de la roue. Il y a le profil, c'est-à-dire que plus on a une jante haute, plus on va pouvoir imprimer de force et garder de l'inertie par rapport au mouvement, mais plus ça va être compliqué de les maintenir en montée. Il y a le poids de la roue qui va avoir un impact aussi. Et puis, jusqu'aux courses où on est soi-même contre le chrono, c'est-à-dire les courses où on n'a pas de drafting autorisé, eh bien, c'est d'aller sur ces roues à bâton dont tu parlais. Et puis, à l'arrière, on trouve souvent des roues pleines. Ça, c'est vraiment pour profiter de l'inertie, et puis quand il y a un vent latéral ou un vent qui peut nous aider à avancer, ça va être de faire un peu cet effet voile de bateau avec la roue pour qu'on exploite cette force du vent pour aller plus vite. Donc voilà, il y a vraiment tout type de roue, et on se retrouve parfois confronté aussi à ce choix. Maintenant j'ai choisi mon cadre, j'ai trouvé un cadre qui me convient bien, qu'est-ce que je dois choisir comme roue? On va pas utiliser les mêmes roues pour grimper le galibier ou pour faire un triathlon à plat, même en drafting, parce que on cherche des dynamiques qui sont différentes. Quand je suis en montée de col, j'ai besoin de roues qui sont extrêmement légères, parce que je vais avoir une relance à faire quasiment à chaque coup de pédale. Ça veut dire que plus ma roue elle est lourde, plus je dois emmener de poids à chaque coup de pédale, et donc dans un col, vu le nombre de tours de pédale qu'il va falloir faire pour aller en haut du galibier, ça va être énormément d'énergie dépensée pour rien à l'arrivée si j'ai des grosses roues bien lourdes.
Voilà, le galibier en roue pleine, ça doit être sympa.
Alors, je sais pas si ça s'est déjà vu. Et d'ailleurs, je me demande, parce que tu vois, il y a le triathlon de Embrun où il y a le col de l'Izoard à passer. Donc le col de l'Izoard, c'est pas le plus difficile, mais bon, ça reste quand même un col hors catégorie du Tour de France. Et là, je me demande s'il y a pas quelques fous furieux triathlètes qui se disent, il y a quand même une section roulante sur un bout de ce triathlon, je vais m'envoyer ça avec une roue pleine.
Il me semble qu'à Embrun, t'as quand même une station de ravito, donc tu peux mettre aussi bien ton ravito perso en termes d'alimentation que de vêtements, que de roues, donc tu peux très bien aussi laisser une roue là-haut.
Alors attention, parce que le règlement de certains triathlons, alors celui d'Embrun en particulier, je le connais pas, mais qui interdit le remplacement de ce type de périphérique sur son vélo. C'est-à-dire que le vélo doit arriver exactement dans le même état qu'il est parti. On n'a pas le droit de changer des roues ou ce genre de choses. Alors évidemment, si on perce une chambre à air, on va pouvoir la changer en route, mais par contre je peux pas prendre des roues aéro sur la première partie à plat et puis finir avec des roues de montagne. Ça peut être autorisé dans l'UCI, on l'a déjà vu sur des contre-la-montre qui commençaient à plat puis qui ensuite passaient par une montée où les coureurs descendaient du vélo de chrono au pied de la montée et puis prenaient un cadre classique pour faire la fin du contre-la-montre. Par contre sur les triathlons, en général c'est interdit de changer de vélo, voire de changer de roue. Mais voilà, tout ça pour dire que les roues ont une importance particulière, et puis surtout les roues peuvent être un point de dépense très très important sur un vélo. Ça peut valoir très très cher, donc on trouve des compromis à moindre coût. D'ailleurs, la plupart des vélos qui sont vendus de série sont fournis avec des roues qui sont potables, hein, qui sont tout à fait utilisables, mais qui seront des roues un petit peu passe-partout. En général, on retrouve des roues en carbone ou des roues en aluminium qui sont un petit peu un mix entre les profils de montagne et de plat. C'est-à-dire qu'en montagne, elles seront peut-être un tout petit peu lourdes par rapport à des vraies pures roues de montagne, mais bon, elles permettront quand même de faire le boulot. Et puis, par contre, elles auront quand même un tout petit peu d'inertie si on roule à plat dessus, mais on trouvera des roues qui sont meilleures à plat, des roues qui sont meilleures en montagne, mais ce sera plus spécifique et ce sera forcément un petit peu plus cher.
Mais dis-moi, sur les roues, tu y mets quand même quelque chose, parce que les roues pleines, ça n'existe pas encore en triathlon.
Effectivement, tu dis de pneus. Donc avant, on avait cet interminable débat entre pneus et boyaux. Maintenant, ce débat, il est en train un petit peu de prendre fin. Alors, les nostalgiques du boyau dont je fais partie, eh bien, regardent ça un petit peu avec nostalgie, mais... voilà, maintenant la plupart des vélos qui sont vendus sont soit vendus avec des roues tubeless, c'est-à-dire où on pose un pneu sans chambre à air, ou alors avec des pneus traditionnels où on met une chambre à air à l'intérieur, mais on voit de moins en moins de roues à boyau sur des vélos de série.
Qu'est-ce qui a tué le boyau à ton avis? C'est effectivement ces roues tubeless?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le tubeless, il y a le fait que c'est plus compliqué à remplacer si jamais tu perces pendant une sortie ou pendant une compétition. Il y a aussi le fait qu'on s'est rendu compte que le rendement pouvait être meilleur avec des pneus à section de 25 qu'avec des boyaux à section de 23 qu'on utilisait couramment il y a quelques années. Le rendement n'était pas forcément meilleur avec des boyaux de 23 gonflés à 10-12 bars qu'avec un pneu de 25 qui est... Alors, si tu parlais d'un pneu de 25 il y a 10 ans, on te disait « mais tu roules avec des pneus de tracteur, quoi ». Et maintenant, c'est devenu un peu la norme, même sur les vélos de triathlon et de contre-la-montre, on trouve ce type de pneus-là. Et d'ailleurs... Bah, encore une fois, pour illustrer ça, bah, c'est avec ça que je vais rouler l'année prochaine, parce que bah, c'est comme ça qu'est monté le vélo que je vais recevoir.
On a vu le cadre, on a vu les roues, on a vu les pneus, tubeless, boyau. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre ? Dans les roues, quand même, il y a le moyeu. Donc, ok, souvent, t'achètes un vélo qui est livré avec une paire de roues, elle-même livrée avec des moyeux. Mais si tu veux pousser un peu la personnalisation jusque-là, est-ce que t'as des conseils à donner sur ces fameux moyeux ?
Alors là, on entre vraiment dans de la technique très, très particulière et qui va toucher qu'un nombre restreint de cyclistes. Et puis bah, là, dans l'exemple que tu donnes, si on veut choisir tous les éléments, c'est-à-dire la jante, le type de rayon, le moyeu, après on va pouvoir choisir ses roulements. C'est d'aller voir un fabricant de roues artisanales qui va pouvoir vraiment faire une roue sur mesure et puis qui correspond exactement à ce qu'on lui demande. Et là, on va pouvoir choisir ben, tout ça. On va pouvoir choisir la hauteur de jante, le poids en périphérie, on va pouvoir choisir le moyeu, des roulements en acier ou des roulements céramiques. Les roulements céramiques sont plus ronds que des billes de roulement en acier, donc permettent un meilleur roulement. Elles sont lubrifiées de manière différente, elles offrent un rendement qui est meilleur. Maintenant, c'est ce qu'on appelle dans le cyclisme du gain marginal. Alors, si on a un vélo moyen et qu'on lui met ça, c'est peut-être un petit peu overkill. Des roulements traditionnels fonctionneront très bien, et puis il vaut peut-être mieux mettre de l'argent un petit peu ailleurs, soit dans une paire de roues avec roulement acier mais de meilleure facture ou peut-être plus légère. Par contre, si vraiment on cherche à gagner de l'efficacité absolument partout, ben on met des roulements céramiques dans son pédalier, dans ses moyeux, pour essayer d'aller chercher ces gains marginaux que certains cyclistes vont chercher. Alors non seulement à coup de grammes, mais aussi à coup de milliers de francs ou d'euros, hein, parce que ça coûte vite cher d'aller chercher ces derniers pourcents de rendement.
Alors ça tombe bien parce que tu parles de pédalier aussi. Ça aussi, c'est un point important dans le vélo. C'est le groupe qu'on va mettre dessus.
Oui.
Alors encore une fois, on est amateur, on se cherche un premier vélo, on a bien compris, on prend un vélo milieu de gamme, plutôt confortable plus que performance, et éventuellement on peut choisir des nouvelles roues, enfin des roues qui remplacent celles qui pourraient être livrées avec le vélo. Il en va de même avec le groupe. Alors qu'est-ce qu'on appelle un groupe et quel conseil tu donnerais là-dessus ?
Alors, on a parlé des roues, on a parlé des freins. Donc, les freins à disque, maintenant, en fait, rendent un petit peu caduque ce problème des roues carbone. Hein, quand on avait les freins sur jante, quand on avait des roues carbone, on sait que dès qu'ils se mettaient à pleuvoir, on perdait en efficacité de freinage et ça devenait un petit peu plus dangereux. Maintenant, si on choisit des freins à disque, on a plus ce problème. Donc, on peut prendre des roues en alu ou des roues en carbone. On a la même qualité de freinage avec du frein à disque. C'est pour ça que je recommande d'aller sur ce frein à disque. Et puis, le groupe, eh bien, c'est toute la partie mécanique transmission qu'on va trouver sur le vélo. Donc ça veut dire les manettes, ça veut dire les dérailleurs, le changement de vitesse, et puis les étriers de frein, enfin voilà, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le groupe. Maintenant, les trois fabricants les plus répandus sur le marché du vélo de route, c'est dans l'ordre de répartition et de distribution de leurs produits, c'est Shimano qui domine le marché outrageusement. Ensuite, c'est SRAM, des Américains qui sont sur le marché depuis plusieurs années, qui ont l'avantage d'être compatibles avec les systèmes Shimano dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on peut mettre une roue montée SRAM sur un vélo équipé de Shimano et ça va marcher picobello. Et puis à l'italien, Campagnolo. Alors,
excuse-moi. Campagnolo.
Eh bien, écoute, tu le fais mieux que moi. Alors, eux, ils ont la réputation un petit peu d'être la Rolls-Royce du changement de vitesse. Et puis, il y a aussi les adeptes de la marque italienne qui restent fidèles, qui sont attachés à cette marque, qu'on voit un petit peu moins souvent, mais par contre, qui fait vraiment des très, très beaux groupes. C'était quasiment les seuls, au moment où j'ai choisi mon vélo de route, à faire des pédaliers entièrement en carbone. Et c'est vrai que ça donne un look incroyable à ces vélos.
Donc j'imagine que là t'es reparti sur du Campagnolo.
Alors sur mon vélo de chrono que j'ai choisi pour l'année prochaine, malheureusement pas, parce que les groupes électriques, et ça on va en parler tout de suite, les groupes électriques de Campagnolo sont pas encore prêts pour les freins hydrauliques, et donc du coup je pouvais pas avoir des freins à disque et un groupe Campagnolo électrique.
Donc tu nous as dit il y a Shimano, il y a SRAM, il y a Campa. Est-ce que pour un début de gamme, tu peux donner quelques noms de groupes, parce que je crois qu'ils sont là installés ces groupes là depuis des dizaines d'années.
Exact. Alors, on trouve, alors dans le haut de gamme, on a le Durae, ce qui est très connu chez Shimano. Je connais un petit peu moins les gammes de chez SRAM au niveau des noms, mais mais on trouve aussi du haut de gamme chez SRAM. Et puis chez Campagnolo, depuis plusieurs années, le top du top, c'est le Super Record. Maintenant, le seul avantage d'aller chercher ces groupes-là, encore une fois, c'est des gains marginaux au niveau du poids des groupes. C'est-à-dire que la qualité du déraillage entre un groupe de milieu de gamme de chez Shimano, ou même d'entrée de gamme, si on prend le 105, le groupe 105, qui est l'entrée de gamme de chez Shimano, eh bien, déraillera quasiment aussi bien au niveau des changements de vitesse que le groupe Durae. Simplement, il va peser 250 grammes de plus ou 300 grammes de plus sur le montage final du vélo.
Pour les triathlètes amateurs, cherchez pas à aller acheter un groupe plus cher et plus léger. Déjà, les 200 grammes de différence, ça va être deux pâtes de fruits ou deux barres de céréales que vous ne mettrez pas sur votre cadre. Donc, c'est peut-être pas la peine tout de suite de partir sur du haut de gamme.
Non, surtout que ça doit être en adéquation avec le vélo qu'on a choisi. Si on a un vélo de milieu de gamme, il faut aller dans le milieu de gamme au niveau du montage du groupe. Mais encore une fois, les fabricants ne vont pas mettre un groupe d'entrée de gamme sur un vélo extrêmement cher, et inversement, ils ne vont pas mettre un groupe Durae sur un vélo d'entrée de gamme. Donc, en général, si on prend un vélo tout monté, on n'a pas le choix du groupe. Maintenant, il n'y a pas de mauvais choix à faire à ce niveau-là. Mais il y a une distinction importante maintenant sur le marché, on en a parlé un petit peu déjà, c'est la distinction entre les groupes mécaniques. Donc le groupe mécanique, c'est simple, c'est dans ma manivelle que j'ai sur mon guidon, je vais tirer un levier, ça va tirer sur un câble, le câble va se tirer tout au long de sa gaine et puis va appliquer une action mécanique sur mon dérailleur. Donc le dérailleur va se tendre ou se détendre et puis va orienter la chaîne sur un pignon plus haut ou plus bas. Donc
en gros, ça marche pareil pour les freins. Hein.
C'est pareil pour les freins, c'est pareil pour le dérailleur à l'avant. Ça, c'est le groupe mécanique. Maintenant, on trouve des groupes électriques. J'appuie sur un bouton sur mon guidon. Il y a un signal électrique qui vient dans mon dérailleur. Il y a un petit moteur qui va faire tourner le dérailleur pour l'amener sur le pignon que j'ai demandé de manière automatique avec un moteur électrique. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus précis. Ça a l'avantage d'être réglé automatiquement. L'avantage aussi de pouvoir placer des boutons de changement de vitesse où on veut sur son guidon et plus seulement dans les manivelles où il y avait la terminaison des câbles avant. Et puis ça devient de plus en plus la norme sur les vélos de moyenne gamme et haut de gamme, et on trouve des groupes électriques. Alors ça s'appelle DI2 chez Shimano, ça s'appelle ETAP chez SRAM. Et d'ailleurs chez SRAM maintenant, il y a des versions de dérailleurs non seulement électriques mais sans fil. Ça veut dire que ça envoie des instructions sans fil pour faire le changement des vitesses. Et puis chez Campagnolo, et bien ça s'appelle
EPS.
EPS, exact. Voilà.
Et chez Mavic, parce que pendant un temps, Mavic faisait aussi des groupes électriques.
C'était d'ailleurs un des précurseurs, mais je ne sais pas s'ils ont toujours une solution sur le marché. Et honnêtement, je ne connais pas leur gamme, si c'est le cas.
Bravo, bravo, Greg, bravo. Hein.
Voilà.
Donc, un test à réaliser sur Nakan, les dérailleurs électriques de chez Mavic.
Oui, alors j'avoue mon inculture et ma non-préparation pour cet épisode, puisque je ne connais pas le nom des groupes électriques de chez Mavic et je ne sais même pas dire s'ils sont encore sur le marché ou pas.
Le cadre, les roues, les groupes. Dans les groupes, il y a une chose particulière aussi auquel il faut porter une attention, c'est ce qu'on appelle le braquet. Bah, tiens, explique-nous ce que c'est que les braquets.
Alors, on va choisir un développement qui est en adéquation avec sa forme, avec son entraînement, et puis avec les objectifs qu'on a. Parce que on imagine bien qu'on ne va pas avoir le même nombre de tours de pédale si on choisit un braquet énorme, comme ont les coureurs du Tour de France sur leur contre-la-montre, ou si on choisit des braquets plus petits. Donc, à savoir, le développement, c'est la corrélation entre la grandeur des plateaux qu'on a sur le pédalier et puis la taille des pignons qu'on a sur la roue arrière. Et c'est ce qui va nous permettre de tourner à une certaine cadence pour aller à une certaine vitesse. Et là, c'est sûr qu'il faut bien choisir ces éléments. Alors, encore une fois, maintenant, on a de moins en moins de problèmes de braquet parce que les groupes actuels proposent entre 11 et 12 vitesses à l'arrière, c'est-à-dire qu'on a entre 11 et 12 plateaux sur la cassette derrière, donc sur l'étagement de pignons qu'on a sur la roue arrière. Et puis, cet étagement, il peut être très important. Maintenant, on trouve chez Shimano, par exemple, en standard, des cassettes qui proposent des étagements 11-30. Ça veut dire que le plus petit pignon, il a 11 dents, et le plus grand, il en a 30. Donc, c'est très important comme plage de développement. Et puis, maintenant, le consensus sur la plupart des vélos, avant, on trouvait soit les pédaliers compacts, soit les pédaliers dits classiques, où on trouvait soit du 34 et 50 dents à l'avant, soit du... Je crois que c'était du 48-53, et maintenant on a trouvé des rapports intermédiaires. Et je crois que la plupart des vélos maintenant sont vendus avec du 36-50 ou 36-52. Et ça, ça permet vraiment d'avoir une polyvalence importante avec une cassette étagée en 11-30 à l'arrière. Donc, en gros, ce qu'il faut se rappeler là-dedans, c'est que en choisissant une cassette qui a une plage assez large à l'arrière, on va pouvoir aborder tout type de montée en gardant une cadence correcte. Et puis la seule chose qu'on perd un petit peu, ben, c'est la granularité qu'il y a entre deux pignons à l'arrière. Ça veut dire que si je passe de ma 7e à ma 8e vitesse, il y aura peut-être un gap qui sera un peu plus important que si j'avais une cassette avec un étagement plus réduit.
Oui, en même temps, pendant des années, on a roulé avec du 8, 9, 10 vitesses. Donc maintenant, quand on passe à 12, on peut avoir entre la 10 et la 11 un étage un peu plus important, mais ce qui permet de grimper un peu mieux.
Ah ouais, ça c'est sûr. C'est toujours confortable quand t'es en asphyxie dans une montée, d'appuyer sur ton levier, puis qu'il y ait encore quelque chose qui vienne, plutôt que tu dises « mince, j'étais déjà sur le dernier pignon et puis j'ai plus rien en stock là ».
Bon, bah on a fait le tour là. Non, allez, le guidon.
Ouais, le guidon, en fait, ça va venir avec le choix où on va s'orienter un petit peu sur le triathlon sans drafting. Mais ça, c'est quelque chose qui va venir un petit peu par la suite. Si on se dirige vraiment sur ce type d'épreuve, ce sera soit des Alpha Ironman, soit même peut-être du distance olympique ou du distance classique, mais sans drafting, ou alors des distances complètes comme l'Ironman, ou alors des longues distances ITU, peu importe la distance qu'on va faire, on va choisir un vélo de type contre la montre ou vélo de type triathlon. Et on aura un guidon sur lequel on est couché, comme les cyclistes du Tour de France quand ils font leur contre la montre sur des sections assez plates. Et là on voit très bien avec deux longs prolongateurs le coureur couché dans son guidon de triathlète. D'ailleurs on appelle ça un guidon de triathlète. Et puis ça, c'est des vélos qui ont une géométrie un petit peu spécifique pour ce type d'effort. Et voilà, si on décide d'aller sur ce type d'épreuve, et bien c'est ce type de vélo qu'on va choisir.
Alors oui, sans aller sur un autre type de vélo, mais c'est bien que tu as apporté la précision. Moi, je pensais vraiment au prolongateur, du plus petit prolongateur, qui sont espèce de je sais pas si ça se fait encore, mais c'est ces petites cornes qu'on mettait juste devant la potence, jusqu'au prolongateur le plus long, voire le vélo de contre-la-montre. Là aussi, faites attention à la réglementation, parce que suivant que votre course soit avec ou sans drafting, vous aurez le droit à une taille ou à une autre de prolongateur. Et puis, si c'est une course avec drafting, il y a des tailles maximum de prolongateurs à pas dépasser. Il y a même des types de prolongateurs à bannir.
En fait, c'est très simple. Si vous faites une course avec drafting, donc où vous avez le droit de rouler dans la roue du coureur qui vous précède et que vous voulez utiliser des prolongateurs, prenez une planche de bois, vous la posez contre le guidon, et si la planche de bois arrive à toucher le bout des deux cocottes, donc là où il y a les deux leviers de vitesse, vous êtes bon. Par contre, si à cause du prolongateur qui est plus long que ces deux manettes de frein ou de dérailleur, eh bien c'est que votre prolongateur est trop long et il ne doit pas aller au-delà de la distance qu'il y a grâce aux deux manivelles de votre guidon. Et puis deuxième chose importante, c'est que s'il y a une course avec drafting, les deux prolongateurs, donc les deux tiges, doivent être reliées entre elles de manière rigide à leur extrémité. Donc ça doit être ponté par une partie, soit en plastique rigide, soit en carbone, soit en métal ou en alu, peu importe, mais ça doit être ponté. Et le simple petit scotch d'électricien, le ruban adhésif d'électricien au bout, ne suffira pas pour passer l'épreuve du commissaire de course à l'entrée du parc vélo. J'en ai vu essayer, ça marche pas.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Le pontage artisanal ne fonctionne pas. On passe rapidement sur le compteur kilométrique, sur le capteur de puissance, etc. Pour ça, direction nakan.ch. Vous aurez tout ce que vous voulez. Vous pourrez choisir du plus simple au plus compliqué. Et en plus, il y a des comparateurs. Il y a plein de choses géniales. Hein, j'en parle mieux que toi, Greg, de ton site.
C'est incroyable.
Bon, il y a quand même, moi je crois, un impératif sur le vélo. Il ne faut pas monter sur un vélo sans ça. C'est le casque.
Alors, le casque fait partie intégrante de l'équipement du cycliste. Prenez un casque. Sur les épreuves où on est sans drafting et où on doit économiser de l'énergie au maximum, on trouve des casques profilés pour ce type d'épreuve. Mais sinon, prenez un casque ventilé standard. Quasiment tout ce qu'on trouve sur le marché, même les premiers prix, feront très bien l'affaire, pour autant qu'ils respectent la norme CE et puis et puis en général la même norme équivalente aux États-Unis qui sont reconnues sur tous les triathlons du monde ou toutes les courses cyclistes. Et puis surtout protéger votre tête même lors des entraînements lorsque le casque n'est pas forcément obligatoire. En tout cas ici en Suisse,
le casque est obligatoire, il n'y a pas de discussion. Top.
Le casque n'est pas obligatoire au sens de la loi ici en Suisse, mais par contre je ne sors jamais sur un vélo sans mon casque. Voilà. Enfin, pour moi, il est obligatoire, comme tu l'as bien dit.
Voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus. Écoute, Greg, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Pour résumer, si vous êtes un amateur, si vous allez préparer votre premier triathlon et que vous avez besoin d'un vélo pour ça, c'est mieux, hein, parce qu'un triathlon sans vélo, c'est difficile. Optez pour un cadre plutôt confortable. La façon de savoir si un cadre est confortable, vous allez chez un vélociste, vous évitez pour un premier achat d'aller sur Internet. Il y a plein de marques qui font ça très bien. Il y en a une qui commence par un C et qui finit par un N, qui vend des super vélos par correspondance, mais pour un premier achat, on vous le déconseille fortement. Donc vous allez chez un vendeur de vélo qu'on appelle un vélociste, vous lui demandez tout plein de conseils. En plus, lui, il sera content parce qu'en général, un vélociste, c'est un artisan et donc ça lui fait toujours plaisir de donner des conseils. Vous lui demandez un cadre, vous lui expliquez ce que vous allez faire, comment vous vous sentez sur un vélo, si vous avez déjà roulé ou pas avant. Il va vous proposer un cadre le plus confortable possible. Donc ce sera plutôt un cadre, ça dépend des morphologies comme tu l'as dit Greg, mais globalement ça va être un cadre un petit peu plus allongé qu'un vélo de performance qui va être plus serré, mais moins allongé qu'un vélo de contre-la-montre. Donc on a comme ça abordé les trois types de vélos. Le vélo de performance qui va être un peu plus compact et plus rigide, plus dynamique. Le vélo plutôt confortable qui n'en sera pas moins énergique, et puis le vélo contre la montre qui est très rigide, très dynamique et où on est très allongé dessus. Alors on a passé en revue les différents points sur le vélo, les roues, le groupe, le casque. Bah je crois qu'il n'y a plus rien à dire là.
Bah il y a encore des tas de choses qu'on pourrait dire, mais je pense que ça fera l'objet d'épisodes à l'avenir. On a dit, hein, on parlera de l'entraînement indoor sur le home trainer, on parlera peut-être aussi d'autres aspects si les auditeurs de notre podcast nous laissent des messages. Ils peuvent le faire sur le site podcast.nakan.ch. Là, il y a tout expliqué sur comment poser des questions si vous voulez réagir à cet épisode. Et puis, si cet épisode il leur a plu, probablement qu'ils vont cliquer sur la petite étoile qui est à côté de cet épisode dans leur plateforme de podcast favorite pour nous faire signe, nous dire voilà, j'ai bien aimé votre épisode aujourd'hui.
Ouais, et moi je vous encourage à faire ça, à aller mettre des petits commentaires, et on a déjà plein de petits commentaires sur iTunes, alors je pense que pour les prochains épisodes on s'amusera peut-être à en lire certains, déjà à faire des odes à ceux qui nous laissent ces commentaires pour encourager tous les autres à le faire, et puis parce qu'il y a vraiment, il y en a vraiment qui sont très sympas. Et bien sur ce, mesdames, messieurs, Grégory, chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été jusqu'à la fin, et moi je vous dis à dans 15 jours avec un nouvel épisode.
Mais oui, à dans 2 semaines pour le prochain épisode. On sait que certains se sont plaints que malheureusement il n'y avait que un épisode toutes les 2 semaines, mais pour l'instant c'est comme ça, et puis on verra si on arrive à faire ça mieux à l'avenir.
On vous prépare peut-être quelque chose, mais en tout cas, parce que moi je vais le dire, tu ne diras pas. Si vous avez besoin d'un épisode entre les deux, vous allez sur le profil de Greg, et le mercredi soir, il vous fait un live sur Facebook pour vous parler de plein de choses en relation avec le site de nakan.ch. Donc comme ça, vous nous entendrez toutes les semaines dans vos oreilles.
Exact. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour le live, et puis dans 2 semaines pour un épisode du podcast.
Merci Greg, à bientôt, ciao.
À bientôt, Emmanuel. Bonsoir Hermano.
Bonsoir Greg. C'est quoi cette intro?
Tu veux qu'on en fasse une?
Bonsoir Hermano, salut, ça va? Je m'attendais pas à ça.
Alors on va refaire.